Chapitre 62. La machination. Dimanche, 20 août 2000, 2h23. Ruine de l'abbaye Saint-Antoine, île de Mornecey. Moins d'un quart d'heure plus tard, une dizaine de gyrophares éclairaient les ruines de l'abbaye. Les policiers avaient fait sauter sans ménagement la grille. Deux d'entre eux et un psychologue s'affairaient auprès de Maddy et Armand pour recueillir leur version des faits. Un commissaire s'activait. Renseigné par Didier Delpech, il avait à son tour téléphoné à Simon Casanova, qui lui avait décrit de la façon la plus claire possible le plan des souterrains de l'île. Mais il n'était guère possible, par téléphone, d'aller plus loin que les premières bifurcations. Un fourgon de police était déjà parti de Nantes en direction de l'aire de Fontenay-le-Comte, spécialement équipé d'un matériel de photocopie et de fax, afin de transmettre au plus vite les informations sur l'île de Mornecey. Sans attendre, les forces d'intervention, composées à la fois de policiers de Granville et de gardiens de la citadelle Mazarin, investissaient les premiers couloirs du souterrain, fouillant mécaniquement, mètre par mètre. Ce n'était pas seulement la fugue de Colin qui était en jeu. Elle n'aurait pas mobilisé autant de monde. Les forces de police pensaient surtout que la disparition de Colin Rémy était directement liée à la cavale de Jean-Louis Valerino. Après 20 minutes, la police n'eut plus de questions à poser à Maddy et Armand. Le père Duval, qui venait d'arriver, les récupéra. Ils s'assirent sur un banc, se sentant tristement inutiles désormais. Le père Duval se taisait, devinant que les deux adolescents n'avaient pas envie de se confier. Pas encore. Delpech vint à leur rencontre. Il tenait galamment Clara par l'épaule, comme s'il cherchait à la réchauffer. Maddy afficha un sourire matiné de déception. « On est hors jeu, vous aussi, pas vrai? Comme nous. »«
C'est mieux comme ça, non ?» fit Delpech.
« Vous vous en foutez ?» continua Armand. « Vous restez aux premières loges. Les autres journaux ne sont pas encore là. Du scoop pour demain ?»
Delpech sortit une cigarette de sa poche. Une marque que Maddy ne connaissait pas. Une Jaroum. Il tira une bouffée. L'odeur étrange fit tousser Armand.
« Petit génie !» répondit Delpech. « En parlant de scoop, tu ne nous avais pas fait croire que tu avais compris pourquoi le Jean Rémy que vous et Colin avez reconnu et le Jean Rémy que moi je connaissais n'ont pas le même visage ?»«
J'ai pas fait croire !» répliqua Armand avec arrogance. « J'ai compris !»
Il marqua un silence, observant l'agitation des policiers, leur va-et-vient incessant, puis poursuivit.
« J'ai compris, à cause du logo du journal sur votre voiture !»
Le père Duval se retourna, étonné. Maddy ouvrit de grands yeux curieux. Armand bluffait-il, encore une fois ? Clara souriait, grelottant un peu. Delpech tira une nouvelle bouffée.
« Vas-y, j'écoute. »
« Vous devriez vous asseoir. C'est à la fois d'une grande simplicité et très tordu. J'ai juste fait le lien entre deux éléments. Apparemment, le type que Colin a pris pour son père est en réalité Maxime Prieur, son ancien associé et ami. » Autre point, vous nous l'avez dit tout à l'heure, ce Maxime Prieur est infographiste. C'est un pro des retouches photos. Or, le seul souvenir concret que Colin possède de son père, il nous l'a dit. C'est une photo de famille sur sa table de nuit. Son père, sa mère et lui devant l'abbaye.
« Je te vois venir, » fit Delpech. « Tu penses que Prieur a trafiqué la photo de chevet du jeune Colin Rémy lorsqu'il avait 6 ans ? Ça tient pas debout. À 6 ans, Colin avait forcément un souvenir précis du visage de son père. » Si on avait mis un autre visage que celui de son père sur cette photo, il s'en serait tout de suite aperçu.
Sauf si la photo a été trafiquée petit à petit. Vous nous l'avez dit, Maxime Prieur est spécialiste du morphing. C'est enfantin. D'abord, lorsque Colin a 6 ans, on pose sur sa table de nuit une photo de son père. Une vraie photo qu'il reconnaît. Puis, progressivement, tous les jours, pendant des années, la photo est remplacée par une autre, la même avec lui, son père et sa mère. Mais si les autres visages restent les mêmes, le visage de son père, lui, est modifié. Imperceptiblement, à chaque fois. Petit à petit, jour après jour, le visage se transforme sur la photo. Mais il est impossible de s'en apercevoir à l'œil nu. Comme un morphing, en fait.
C'est possible ? Demanda Clara, incrédule.
Ça me semble complètement débile, commenta Maddy. Ça vous semble logique, à vous ?
Delpech écrasa son mégot. Il siffla en signe d'approbation.
Techniquement, répondit-il. C'est sûrement possible. Avec simplement quelques centaines de photos, on doit pouvoir passer sans problème d'un visage à un autre sans qu'on puisse percevoir la moindre différence entre deux clichés. Pour un enfant de 6 ans qui ne reverra jamais d'autres images de son père, qui n'a de lui qu'une seule photo pour soutenir sa mémoire visuelle, il est tout à fait vraisemblable que cette photo s'impose dans ses souvenirs, même si elle devient contradictoire avec ses propres souvenirs réels. Ensuite, il prendra logiquement tous les clichés de Maxime Prieur pour ceux de son père.
« J'y crois pas », fit Clara d'une voix douce. Elle tremblait.
Delpech lui prit les mains et souffla sur elle.
« Clara, pense à quelqu'un que tu connaissais et qui est mort quand tu étais petite. Une tante, une grand-mère. »«
Ma grand-mère, j'avais 9 ans. » »«
Tu te souviens d'elle ?»«
Oui, bien sûr. » »«
De son visage ?»«
Oui aussi, si je me concentre. » »«
Réfléchis bien. Je suis certain que toutes les images de ta grand-mère qui te reviennent sont en réalité des images de photos d'elle que tu as revues depuis sa mort. » Tu ne te souviens de son visage qu'à travers les supports matériels dont tu disposes, c'est pas vrai ?
Clara réfléchit un instant.
Si, mais pour Colin, c'était son père.
Il avait 6 ans, t'en avais 9. C'était ta grand-mère, c'est la même chose. Non, le problème ne vient pas de la faisabilité technique d'une telle machination. Le problème le plus important est double. Qui a pu faire cela et pourquoi ?
Delpech alluma une nouvelle cigarette. Le père Duval prit pour la première fois la parole. Il parlait lentement, pesant chaque mot.
Si vous dites la vérité, seuls son oncle et sa tante, qui ont élevé Colin pendant 10 ans, peuvent avoir ourdi une telle machination. Jusqu'à ce soir, cela aurait été une idée parfaitement ridicule. Mais il faut savoir que Thierry et Brigitte Ducouret ont également tous les deux disparu, en même temps que Colin. La police a lancé un avis de recherche.
C'est eux ! Hurla Maddy. Colin ne leur a jamais fait confiance. Ils sont les seuls à avoir pu monter un tel coup. Son oncle et Maxime Prieur ont réalisé le morphing. Et sa tante n'avait plus qu'à changer régulièrement la photo dans le cadre sur la table de nuit de Colin, lorsqu'il était à l'école. Elle travaillait pas. Quelques centaines de photos, vous dites ? En 1 an ou 2, ces salauds avaient trafiqué les souvenirs de Colin.
De plus, ajouta Delpech, Maxime Prieur et Jean-Rémy se ressemblaient. Même corpulence, brun tous les deux. Reste la question clé. Pourquoi se donner tant de mal ? Prévoir une telle machination 10 ans à l'avance.
C'est évident !
Hurla Armand. Il toussa.
Vous pouvez pas éteindre vos clopes de merde ? Elles puent le clou de girofle.
Delpech écrasa son mégot avec empressement.
Continue, mon garçon. Pourquoi c'est évident ?
Il y a 10 ans, le père de Colin, Jean-Rémy, avait donné des ordres précis au notaire de Lille, Maître Bardon. Colin devait récupérer dans son étude son dossier testamentaire, le lire devant lui, et bien entendu ensuite, mis au courant de la vérité, téléphoner aux flics. Une seule personne pouvait convaincre Colin de ne pas ouvrir ce dossier devant le notaire. Une seule personne pouvait arriver à le faire désobéir aux ordres de son père 10 ans plus tôt. Son propre père ressuscité. « Nom de Dieu !» fit Clara.
Le journaliste passa la main sur son visage moite.
« Ça te dérange vraiment, gamin, si je rallume une cigarette ?»
Le fourgon de police venait de repartir en trombe de l'aire d'autoroute de Fontenay-le-Comte dans un déluge de bruit et de lumière. L'aire de repos redevint soudain déserte. Le trafic sur l'autoroute était désormais presque fluide, mais Simon savait que, dans ces heures décisives, il était plus utile ici. Les policiers avaient réquisitionné le plan de Lille, sans prendre le temps de lui poser d'autres questions. Le vaste plan devait être déjà scanné sous toutes les coutures et dépêché vers Mornecey. Normal, des vies en dépendaient. Il repensa fugitivement à Candice, qui devait dormir quelque part sur l'île, peut-être dans les bras d'un autre garçon. Indifférente à toute l'agitation nocturne qui animait les ruines désertes et oubliées qu'elle gardait dans la journée. Les fugitifs sous ses pieds. Simon n'était pas abattu. Il avait encore tout le reste du dossier à étudier, une nouvelle fois. Les policiers ne lui en avaient même pas parlé. Ils avaient tort. Tous ces types sur l'île ne couraient qu'après une seule chose, la folie Mazarin. Si l'on découvrait où se cachait la folie Mazarin, on retrouverait du même coup le jeune Colin Rémy, Valerino et ses complices. Et la clé de cette folie Mazarin se situait dans ce dossier, dans ses archives, ses lettres, ses plans, ses cartes, ses coupes géologiques, ses relevés météorologiques, ses analyses d'herbes et de plantes de l'île. Simon se replongea dans l'étude du dossier. Il fallait qu'il trouve. Il feuilleta la centaine de pages d'archives collectées par Jean-Rémy, de longues minutes. Il devait avoir parcouru 10 fois le document lorsqu'il s'arrêta sur une des nombreuses coupes géologiques contenues dans le dossier. Une intuition ? Enfin, il fit glisser un relevé météorologique et compara les documents. Une fenêtre s'entrouvrait dans l'esprit embrumé de Simon. Et si c'était ça ? Un raisonnement insensé prenait corps. C'était sans doute impossible, stupide. Pas à Mornecey, pas sur cette île.
Pourtant, si cette idée folle était juste, la plupart des indices s'expliquaient, s'emboîtaient parfaitement. Il fallait tout reprendre depuis le début et vérifier.